Correspondance de prison, 1915-1917. Rosa, Luxembourg. À Martha Rosenbaum, 12 mars 1915. Cher camarade Rosenbaum, j'ai enfin l'occasion de vous écrire quelques mots, mais inutile d'y faire allusion dans votre prochaine lettre. Mille remerciements pour votre mot pour le 5 et les fleurs qui sont encore sur ma petite table. Vraiment, elles sont merveilleusement conservées et je les ai soignées comme la prunelle de mes yeux. J'ai examiné tous les jours en détail chacun des personnages et des narcisses. En réalité, tout cela était de la contrebande, mais m'a tout de même été remis. J'ai en effet reçu le 5, de façon inattendue et comme si on s'était donné le mot, une telle quantité de lettres et de fleurs qu'elles ont rompu d'elles-mêmes la barrière rigide du règlement. J'ai d'abord été assez émue par ma mise hors circuit, comme quand on est coupé au milieu d'une conversation téléphonique, mais cela m'a fait rire quand même. Bien des projets se trouvèrent ainsi annulés, mais j'espère qu'il n'en ira pas ainsi de tous. Après 2 semaines, j'ai enfin reçu la permission d'avoir mes livres et de travailler. Vous pouvez imaginer que je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Ma santé devra bien s'accommoder du régime assez particulier en vigueur ici, mais l'essentiel, c'est qu'il ne m'empêche pas de travailler. Songez que je me lève tous les jours à 5h40. Cependant, tous les soirs, je dois être à 9h au lit, si l'on peut appeler ainsi l'instrument que je dois rabattre contre le mur tous les matins et remettre en place tous les soirs, et qui, le jour, y est plaqué aussi parfaitement qu'une planche. Comme je peux m'en rendre compte par les journaux, qui constituent mon unique lien avec l'histoire du monde, les choses avancent bien. Vous êtes probablement enthousiasmé par Az, pour qui vous avez toujours eu un faible. Mais outre que ses doléances et ses critiques jurent avec son vote, il n'aurait jamais employé ce ton si les déclarations de Karl L. à la Chambre des représentants ne l'avaient encouragé sur cette voie, qui rappelle que l'on peut tenir, comme autrefois, un tel langage. Dans l'ensemble, je me sens de très bonne humeur, étant assurée que l'histoire travaille vraiment pour nous. 6 juin, un mot de Kurt. Portez-vous bien, merci pour tout. Écrivez-moi quelques lignes de temps en temps. Moi, je ne puis écrire, hélas, qu'une lettre par mois. Votre R.L. Postscriptum, s'il vous plaît. Soyez prudente au téléphone en parlant de moi et de cette lettre. À Mathilde Jacob, vendredi 9 avril 1915. Ma chère mademoiselle Jacob, j'espère que vous recevrez ces lignes assez tôt pour qu'elles vous donnent ce que je souhaite, le bonjour en ce dimanche matin. Merci de tout cœur pour vos lettres que je lis et relis et qui m'apportent une brassée de joie. La seconde est arrivée ce matin de Iéna, je ne connais pas l'hôtel où vous êtes, avec les jolies pièces jointes. La photo de Mimi m'a fait terriblement plaisir. Chaque fois que je la regarde, je ne puis m'empêcher de rire. J'ai si souvent connu ces accès de sauvagerie chez elle quand on entreprenait une manœuvre d'approche que c'est tout juste si, en regardant l'image, je ne l'entends pas gronder. La photo est remarquablement réussie et pour le jeune médecin aussi, qui s'intéresse tant à ma Mimi, j'éprouve a priori la plus vive sympathie. Un merci tout particulier pour les fleurs. Vous ne savez pas quel bien vous me faites. C'est que j'ai la possibilité de m'adonner de nouveau à la botanique, ce qui est ma passion et la meilleure détente après le travail. Je ne sais si je vous ai déjà montré mes herbiers, où à partir de mai 1913, j'ai classé à peu près 250 plantes, toutes magnifiquement conservées. Je les ai tous ici, ainsi que divers atlas, et à présent je peux ouvrir un nouveau cahier, un cahier spécial pour la Barnimstrasse. Je n'avais justement encore aucune des petites fleurs que vous m'avez envoyées, et je les ai disposées dans ce cahier. M'ont fait particulièrement plaisir l'étoile jaune, la petite fleur jaune de la première lettre, et l'anémone pulsatile, car on ne les trouve pas ici à Berlin. Les deux feuilles de lierre de Madame von Stein vont elles aussi passer à la postérité. Je n'avais pas encore vraiment de lierre, en latin Hedera helix, dans ma collection. Je suis doublement contente de leur origine. L'hépatique mise à part, toutes les autres fleurs étaient très correctement pressées, ce qui est important quand on herborise. Je suis contente pour vous que vous voyez tant de choses. Pour moi, ce serait une punition que d'être obligée de visiter musées et autres établissements. J'y attrape aussitôt la migraine et me sens toute moulue. La seule détente consiste pour moi à baguenauder dans la campagne ou à rester allongée au soleil, dans l'herbe, en observant les insectes, si minuscules soient-ils, ou en scrutant les nuages. Je vous dis cela pour le cas où nous ferions un jour ensemble notre voyage. Je ne vous empêcherai nullement de visiter tout ce qui vous intéresse. Il faudrait seulement que vous m'excusiez. Il est vrai que vous unissez les deux genres de distractions, ce qui est la solution la plus juste. J'avais vu un portrait de Lady Hamilton dans l'exposition des Français du XVIIIe siècle. Je ne me rappelle plus le nom du peintre. Je me souviens seulement d'une peinture vigoureuse, au ton cru, d'une beauté robuste, provocante, qui m'a laissé froide. Ma préférence va à des types de femmes un peu plus fines. Dans la même exposition, je vois encore très nettement le portrait de Madame de Lavallière, peint par la Lebrun, dans des tons gris, argent, qui s'accordait admirablement avec le visage transparent, les yeux bleus et la robe claire. Je n'arrivais pas à me détacher de ce tableau dans lequel tout le raffinement de la France pré-révolutionnaire, une culture aristocratique, s'alliait à un léger parfum de décomposition. C'est bien que vous lisiez « La guerre des paysans » d'Engels. Avez-vous déjà fini le Zimmermann ? À proprement parler, Engels ne nous propose pas une histoire, mais seulement une philosophie critique de la guerre des paysans. Le tissu nourricier des faits, c'est Zimmermann qui le fournit. Quand je voyage en Württemberg, que je traverse les villages endormis en passant entre les tas de fumier odorant et que les oies, leur long cou tendu, sifflant, ne cèdent que de mauvais gré la place à l'auto, tandis que les adolescents du village, encore plein d'espoir, réplique à quelques jurons, je ne parviens jamais à me faire à l'idée qu'autrefois, dans ces mêmes villages, l'histoire mondiale a passé, martelant les rues de son pas sonore et que des personnages dramatiques s'y sont empoignés. Pour me distraire, je lis « L'histoire géologique de l'Allemagne ». Songez donc que dans les plaques d'argile de la période algonquienne, c'est-à-dire de l'époque la plus ancienne de l'histoire du globe, alors qu'il n'existait pas encore la moindre trace de vie organique, donc il y a des millions et des millions d'années, songez que l'on a trouvé en Suède, dans une de ces plaques d'argile, la marque des gouttes d'une brève averse. Je ne saurais vous dire quel effet magique produit sur moi ce lointain bonjour venu du fond des âges. Je ne lis rien avec autant d'intérêt passionné que des livres de géologie. À propos, pour revenir à Madame von Stein, malgré toute la piété que j'éprouve pour ses feuilles de lierre, Dieu me pardonne, mais c'était une chipie. Lorsque Goethe lui a donné congé, elle s'est comportée comme une clabaudeuse. Et moi, je maintiens que le caractère d'une femme se mesure non pas lorsqu'un amour commence, mais lorsqu'il s'achève. Aussi, de toutes les femmes que Goethe a aimées, la seule qui me plaise, c'est la délicate, la réservée, Marianne von Wilmer, la Suleika du divan occidental-oriental. Je suis toute contente que vous vous reposiez, vous en aviez besoin. Moi, je vais très bien. Amitié, votre R.L. Un bonjour amical à Mademoiselle Dierenfurst. Son petit mot m'a fait bien plaisir. à Mathilde Jacob. 13 avril 1915. Ma chère mademoiselle Jacob, je viens de recevoir votre lettre avec l'herbe de Saint-Pierre et d'autres cadeaux célestes. Je vous ai déjà écrit vendredi 3 à l'adresse que vous m'aviez indiquée de l'hôtel Rothenkranz. Et maintenant, vous êtes au Golden and Loven. Cela vient de votre humeur lunatique. Faites-moi savoir si vous avez reçu la lettre. Merci mille fois pour la lettre et les fleurs. Je vais bien. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de détente. Cordiales salutations de votre R.L. Les primevères éclairent ma cellule comme la lumière du soleil. Elles s'appellent aussi en français chandeliers. Elles viennent d'arriver. Vous pressez maintenant les fleurs d'une fameuse manière. La jacinthe est magnifique, la mousse aussi. La petite fleur bleue est en effet une jacinthe étoilée, Scylla. À Mathilde Jacob. Berlin, 19 avril 1915. Dimanche. Ma chère mademoiselle Jacob, cette carte doit vous accueillir demain à la maison aussi reposée que je vous le souhaite. Merci de tout cœur pour les fleurs. Vous pressez maintenant à merveille. Mon cahier s'enrichit à vue d'œil. Les anémones pulsatiles sont impeccables, ainsi que le reste. Les différents chatons, notamment, me font énormément plaisir. Dorénavant, que du pressé, hein ? J'en viens à présent aux inévitables demandes, qui sont même un peu urgentes. 2 flacons de teinture de myrrhe, 1 carton de savon au lait de Lys de Lauze, 3 pièces pour 2 marques, 1 flacon d'eau de muguet de Lauze pour 3 marques, 1 boîte de lanoline avec l'anneau fléché pour 20 pfennigs, 1 boîte d'encaustique blanche pour 50 pfennigs, 3 citrons à peau fine, dont j'ai besoin comme produit de toilette, pour me nettoyer les doigts de l'encre. Pour Mimi, je suis tranquille. Embrassez-la pour moi et écrivez-moi comment elle s'est réjouie avec vous. Cordialement, votre R. Postscriptum. Franz et sa femme voulaient me rendre visite prochainement. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils renoncent provisoirement à leur projet. Je les salue cordialement. À Sophie Liebeknecht. Franke, le 15 janvier 1917. Sonjotcha, mon petit oiseau, si mon vœu se réalise, cette feuille volera le 18 avec le premier courrier sur votre lit. Vous dira bonjour pour votre anniversaire et vous annoncera ma visite pour toute la journée. Bien sûr, pour l'instant, rien qu'une visite improvisée, mais en ce jour, je serai autour de vous et près de vous en pensée. Et vous devrez le sentir. Vous ne tremblerez pas de froid au-dedans de vous-même, mais serez entouré de mon amour et de ma chaleur comme d'un doux manteau. Ma pauvre petite fille, vous êtes si désespérément seule, au loin, avec votre douleur. J'aimerais au moins par ma lettre vous offrir ce jour-là une heure de soleil, car je ne peux plus orner près de la fenêtre à Zudende d'un iris blanc étincelant, et vous offrir le spectacle d'un coucher de soleil flamboyant avec des traînées de nuages apocalyptiques telles qu'on ne peut les voir, me semble-t-il, que de mon appartement. En revanche, je vous envoie des jacinthes et des tulipes, ainsi que mon portrait, qui va avec les fleurs comme un tablier à une vache. Et j'ai commandé à Bruxelles un autre cadeau qui convient à notre goût frivole. C'est quelque chose de parisien. Il n'arrivera malheureusement pas à temps, mais j'espère qu'il vous fera plaisir, même en différé. Nos amis s'efforceront certainement d'embellir ce jour, et c'est ce qui me console, puisque je suis enchaînée. Ah, pendant un court instant aujourd'hui, je l'ai cruellement ressenti. Le sifflet de la locomotive m'a averti à 3h19 du départ de Mathilde, et j'ai couru comme un animal en cage selon mon itinéraire habituel, aller-retour le long du mur. Et j'avais le cœur serré de douleur de ne pas pouvoir, moi aussi, partir d'ici. Oh, partir d'ici. Mais qu'importe. Tout de suite après, mon cœur a reçu une petite tape et a dû se soumettre. Il a l'habitude d'obéir comme un chien bien dressé. ne parlons pas de moi. Sonichka, vous souvenez-vous de ce que nous avons projeté de faire quand la guerre sera finie? Un voyage ensemble dans le Midi, et nous le ferons. Je sais que vous rêvez d'aller avec moi en Italie, qui est pour vous ce qui se fait de mieux. Moi, j'ai l'intention de vous entraîner jusqu'en Corse. C'est encore mieux que l'Italie. On y oublie l'Europe, du moins l'Europe moderne. Imaginez un paysage vaste et héroïque, avec des montagnes et des vallées aux lignes sévères. En haut, rien que des blocs de rochers dénudés, d'un gris très pur. En bas, des oliviers aux feuillages épais, des lauriers cerises et des châtaigniers séculaires. Et sur tout ce paysage règne un silence de commencement du monde. Nulle voix humaine, nul cri d'oiseau, rien qu'un ruisseau qui court quelque part entre les galets, ou encore, tout là-haut, le murmure du vent entre les falaises rocheuses, ce même vent qui gonflait les voiles d'Ulysse. Et les gens que vous rencontrez sont en accord avec le paysage. Au détour du sentier de montagne surgit soudain une caravane. Les Corses marchent toujours l'un derrière l'autre, en convoi étiré et non pas en groupe comme nos paysans. D'ordinaire, un chien ouvre la marche. Puis on peut voir, s'avançant lentement, une chèvre ou un petit âne chargé de sacs emplis de châtaignes, puis vint ensuite un grand mulet sur lequel est juchée une femme. De profil, les jambes pendantes, un enfant dans les bras. Elle se tient bien droite, mince comme un cyprès, immobile. À ses côtés, marche, d'un pas ferme, tranquille, un homme barbu, tous deux silencieux. Vous jureriez voir la Sainte Famille. À chaque pas, vous découvrez là-bas des scènes semblables. J'étais chaque fois si émue que je manquais tomber à genoux, comme cela m'arrive toujours devant la beauté parfaite. Là-bas, la Bible, l'Antiquité sont encore vivantes. Il nous faut y aller et voyager comme je l'ai fait, parcourir toute l'île à pied, dormir chaque nuit en un lieu différent, saluer chaque lever de soleil en étant déjà en chemin. Ce projet vous séduit-il ? Je serai heureuse de vous montrer ce monde, ma petite reine. Oui, Sonichka, n'oubliez jamais que vous êtes une petite reine. Je sais, vous me l'avez dit, vous l'avez souvent oublié, vous vous êtes abaissée, vous avez parlé et vous êtes conduite comme une petite blanchisseuse, mais vous n'en avez plus le droit. Vous devez pendant ces 4 ans arriver à tant de cohérence interne que K retrouvera sa petite reine et devra s'incliner devant elle. Pour cela, il faut de la discipline et du respect de soi, ce que vous devez acquérir. Vous le devez ainsi qu'à moi qui vous aime et vous respecte. Lisez beaucoup, Sonichka. Vous avez aussi à progresser intellectuellement et vous le pouvez car vous êtes encore jeune et malléable. Et maintenant, il faut que je termine. Je pose encore mes 3 bébés nus sur vos genoux et je vous embrasse. Soyez sereine et gaie en ce jour. Votre Rosa. Postscriptum. Envoyez-moi, s'il vous plaît, lors de la prochaine visite, le Macaulay que j'avais prêté à Karl. À Sophie Liebknecht. Après, le 16 novembre 1917. Ma Sonichka bien-aimée, j'espère avoir bientôt à nouveau l'occasion de vous faire parvenir enfin une lettre. Et c'est avec fièvre que je prends la plume. Depuis combien de temps ai-je dû renoncer à la chère habitude que j'avais prise de bavarder avec vous, au moins par écrit? Mais c'était devenu impossible. Les quelques lettres qu'on me laissait écrire étaient pour Hans. Il les attendait et maintenant, c'en est fini. Mes 2 dernières lettres étaient adressées à un mort. On m'en a déjà renvoyé une. Cela dépasse encore mon entendement. Mais n'en parlons plus. Je préfère me confronter toute seule à ces choses-là. Quand on veut prendre avec moi toutes sortes de ménagements pour me préparer à la mauvaise nouvelle, me consoler par des jérémiades sur moi-même comme l'a fait, cela mérite plus que je ne saurais le dire. Faut-il que mes amis les plus proches me connaissent si mal et aient de moi une si piètre opinion pour ne pas comprendre que le mieux, le plus délicat en une telle circonstance, serait de me dire très vite, simplement, sans circonlocution, ces deux mots. Il est mort. Cela m'a froissé. Mais n'en parlons plus. Sonichka, mon cher petit oiseau, je pense souvent à vous, ou plutôt vous m'êtes sans cesse présente. J'ai toujours l'impression que vous êtes solitaire, battu par les vents comme un moineau frissonnant, et que je devrais être auprès de vous pour vous égayer et vous rendre vie. Comme je regrette les mois et les années qui passent, et toutes les belles heures que nous aurions pu vivre ensemble, en dépit des horreurs qui se passent dans le monde. Voyez-vous, Sonyucha, plus cela se prolonge, plus les infamies et les monstruosités qui se produisent chaque jour dépassent toute mesure, plus je suis tranquille et ferme en mon fort intérieur. Face aux éléments, à un ouragan, à un déluge, à une éclipse de soleil, les canons moraux sont inapplicables. On doit se contenter de les considérer comme une donnée, un objet de recherche et de connaissance. Se révolter et tempêter contre l'humanité tout entière n'a finalement pas de sens. Ce sont sans aucun doute objectivement les seules voies possibles de l'histoire et il faut en suivre le déroulement sans dévier de sa propre direction. J'éprouve le sentiment que toute cette boue morale dans laquelle nous pataugeons, que cet immense asile d'aliénés dans lequel nous vivons, pourrait se transformer du jour au lendemain, comme par un coup de baguette magique, en leur contraire, en quelque chose de prodigieusement grand et héroïque. Si la guerre dure encore quelques années, ce changement s'opérera nécessairement. Alors, ces mêmes personnes qui offensent aujourd'hui à nos yeux le nom même de l'homme participeront fougueusement à l'héroïsme ambiant, et tout ce qui se passe à présent sera balayé, extirpé, oublié, comme si cela n'avait jamais existé. Cette idée me fait rire, et en même temps, j'entends en mon fort intérieur un appel au châtiment, à l'expiation. Comment toutes ces infamies doivent être oubliées, rester impunies? Et ce qui est aujourd'hui la lie de l'humanité pourra demain, la tête haute et couronnée de lauriers frais, déambuler sur les sommets de l'humanité et contribuer à réaliser les plus nobles idéaux? Mais telle est l'histoire. Je sais parfaitement que les comptes ne seront jamais réglés selon la justice et qu'on doit tout accepter. Je me rappelle avoir pleuré à chaudes larmes lorsque, étudiante à Zurich, j'ai lu les essais sur la culture économique primitive du professeur Zibert, où il décrit comment les Européens ont refoulé et exterminé systématiquement les peaux rouges d'Amérique. Et je serrais les poings de désespoir. Non seulement que cela fût possible, mais que tout cela ne pût être vengé, puni, expié. Je tremble de douleur à la pensée que ces Espagnols, ces Anglo-Américains sont morts et décomposés depuis longtemps et ne peuvent être ressuscités pour subir les tortures qu'ils ont infligées aux Indiens. Mais ce sont des idées puériles. Et tous les péchés actuels contre le Saint-Esprit, toute l'ignominie, seront oubliés dans le fatras des factures historiques non réglées. Et tous redeviendront bientôt à nouveau un peuple uni de frères. J'en ai bien pris conscience aujourd'hui, en lisant que les sociaux-démocrates de Vienne avaient envoyé un télégramme au gouvernement de Lénine à Saint-Pétersbourg. Approbation enthousiaste et vœux de succès, les Adler, Pernerstorfer, Rainer, Austerlitz et les Russes qui se saignent à blanc, mais il en sera ainsi. Et plus tard, on ne voudra pas qu'il en ait été jamais autrement. D'ailleurs, rien n'a changé depuis le commencement du monde. Lisez donc « Les dieux ont soif » d'Anatole France. J'admire cet ouvrage, surtout parce qu'il montre avec un regard génial tout ce qui est humain, trop humain. Voyez-vous, c'est à partir de telles personnalités dérisoires, à partir de telles mesquineries quotidiennes, que l'histoire, au moment voulu, fait les événements les plus gigantesques et les gestes les plus sublimes. Dans la vie sociale comme dans la vie privée, il faut tout prendre avec calme, générosité et un léger sourire. Je crois fermement qu'après la guerre ou à la fin de la guerre, tout changera. Mais il nous faut manifestement patauger d'abord dans une période de souffrances atroces et inhumaines. C'est à rire et à pleurer qu'un frêle petit oiseau comme vous, né pour le soleil et le chant insouciant, se soit égaré du fait du destin dans l'une des périodes les plus sombres et les plus cruelles de l'histoire universelle. Mais nous traverserons les temps côte à côte, à la nage, et ça ira. À propos, mes derniers mots me suggèrent une autre idée, une information que je voudrais partager avec vous parce qu'elle m'est apparue fort poétique et touchante. Au sujet de la migration des oiseaux, qui, vous le savez, est un phénomène demeuré jusqu'à présent assez mystérieux, j'ai lu récemment dans un livre scientifique que diverses espèces d'oiseaux, qui d'ordinaire se comportent en ennemis mortels, se font la guerre et s'entre-dévorent, font paisiblement, côte à côte, le grand voyage vers le sud au-delà des mers. De grandes bandes d'oiseaux volant très bas, faisant bruisser leurs ailes, comparables à des nuages obscurcissant le ciel, se rendent en Égypte pour l'hiver. Dans ces bandes, au milieu d'oiseaux de proie, vautours, aigles, faucons, chouettes, des milliers de petits oiseaux chanteurs, tels que des alouettes, des roitelets huppés, des rossignols par exemple, volent sans crainte parmi les rapaces qui d'ordinaire leur font la chasse. Il semble donc que pendant le voyage règne tacitement une trêve de Dieu. Tous s'efforcent d'atteindre le but et s'abattent sur les bords du Nil à demi-morts d'épuisement, avant de se séparer par espèces et colonies. Il y a plus. On a même observé que durant ce voyage, par-delà de la grande mare, de gros oiseaux transportent les plus petits sur leur dos, si bien qu'on a vu passer des bandes de grues sur le dos desquelles gazouillaient de minuscules oiseaux chanteurs. Regarde, regarde, Timothée. N'est-ce pas charmant? S'il nous voit un jour en catastrophe voler au-delà des mers, nous prendrons Sonichka sur le dos et elle gazouillera dans l'insouciance pendant tout le trajet. Dites-moi, êtes-vous retourné au jardin botanique? N'hésitez pas à le faire. On y trouve toujours quelque chose à voir et si l'on prête attention au chant des oiseaux, à entendre. J'ai été très contente qu'Orphée vous ait plu. Comment pouvez-vous dire sans cesse que vous n'êtes pas mélomane alors que la belle musique vous fait vibrer à ce point? Certes, c'est douloureux, du moins pour moi aussi, de jouir tout seul d'une belle musique. Selon moi, Tolstoï a fait preuve d'une grande intelligence en disant que l'art est un moyen de communication sociale, un langage social. Il est là pour que se comprennent ceux qui ont des affinités spirituelles. Et l'on ressent plus cruellement la solitude au son mélodieux d'une merveilleuse musique ou devant un tableau saisissant. Récemment, dans une anthologie de poèmes, rassemblés par ailleurs sans goût et sans ordre, j'en ai découvert un de Hugo von Hofmannsthal. D'habitude, je n'aime pas du tout ce poète. Je le trouve apprêté, maniéré, obscur. Je ne le comprends absolument pas. Mais ce poème m'a beaucoup plu et m'a laissé une forte impression. Je le joins à ma lettre. Peut-être vous donnera-t-il aussi du plaisir. Je suis plongée jusqu'au cou dans la géologie. Sans doute cette science vous paraît-elle tout à fait desséchée, mais c'est une erreur. Je la pratique avec un intérêt fébrile et une satisfaction passionnée. Elle élargit l'horizon intellectuel dans d'énormes proportions et suscite une représentation cohérente et universelle de la nature, ce que ne peut faire aucune autre science. J'aimerais vous raconter des tas de choses sur ce sujet, mais pour cela, il faudrait que nous puissions converser, flâner ensemble une matinée dans la campagne de Sudende, ou nous raccompagner l'une chez l'autre, à deux ou trois reprises, par une nuit claire et paisible. Que lisez-vous? Où en êtes-vous de la légende de Lessing? Je veux tout savoir de vous, écrivez-moi, si possible tout de suite, par la même voie ou tout au moins par la voie officielle sans faire allusion à cette lettre. Je compte déjà les semaines qui me séparent du moment où je vous reverrai ici. Ce sera sans doute tout de suite après le nouvel an, n'est-ce pas? Je m'en réjouis d'avance. Sonyocha, j'aimerais vous demander un cadeau de Noël, un portrait de vous. C'est la plus belle chose que vous pourriez me donner. Qu'écrit Karl, quand le reverrez-vous? Faites-lui mille amitiés de ma part. Je vous embrasse et vous serre très fort la main. Cher, très cher Sonichka, écrivez vite une longue lettre. Votre R.L.
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Den Karlinknecht, dem haben wir's geschworen, der steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanone. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei. Dem Karlinknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand. Den Karlinknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Den Karlinknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Den Karlinknecht, dem haben wir's geschworen. Der
Thank you.